Bah qu'est-ce qui se passe?
Ah je sais pas, ça gueule un peu, c'est Triskar là qui gueule.
Oh, bah, donc, vu qu'il a Triskar d'habitude, il parle à qui là? Parce que d'habitude il est plutôt calme, je comprends pas.
Ah bah,
il y a même Finn le barde là qui veut commencer à s'en mêler. Bah, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je regarde. Il parle à qui?
Ah, je pense que c'est une succube comme ça, j'ai l'impression en tout cas.
Ah oui, ça doit être une succube parce qu'il y a du monde autour d'elle quand même là.
Ah ouais. Et quoi? J'entends. Ah oui, ne prenez pas mes clients pour aller à votre cabaret. Ouais. Ok,
ah,
bon,
oui.
Pardon.
Ah là, je comprends.
Ouais.
Oh là là. Faut dire que dernièrement, alors je sais pas, c'est peut-être la maladie du printemps comme on disait, mais ça a tendance à volter dans tous les coins. Ça va, ça vient, il y a des sourires, il y a quelque chose. Bon, je crois qu'il est vraiment temps qu'on discute de ce grand sujet qu'est la séduction et voire plus si affinité dans Donjons et Dragons. Rolling TV, bonjour Mathieu avec un seul T à l'antenne, bonjour Fabrice.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde, et aujourd'hui un épisode un peu spécial je pense, étant donné que bon, c'était l'épisode 69, j'ai vu ça, j'ai rigolé, et je me fais, tiens Mathieu, est-ce qu'on parlera pas de choses un
Alors,
peu
avant de faire le petit message d'avertissement, bien entendu, bonjour à tout le monde encore une fois et soyez les bienvenus quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit où vous nous écoutez et où que vous soyez, bien entendu, et bien faites attention si vous êtes au volant, surtout qu'on risque peut-être de parler de certaines choses. Alors je précise, l'idée ne vient pas de moi, je le précise tout de suite, mais on se dit pourquoi pas, effectivement, parce que c'était le Donjons et Dragons 69.
Voilà. Donc, on fait un gamin, voilà. Non, mais plus sérieusement, le sujet, on va parler de ça, on va rester bon enfant, donc voilà, on va essayer de pas choquer trop les gens non plus, on va décrire ça de façon, visuellement, de très très loin, et on restera sur un terrain assez neutre, hein, voilà. Ne vous inquiétez pas.
Je tiens à dire que j'ai insisté pour qu'il y ait le titre séduction quand même dans l'émission. La séduction dans Donjons et Dragons et la reproduction, bah, c'est quand même. On a un monde, surtout maintenant dans cette cinquième édition, enfin, depuis la troisième édition plus particulièrement, où nous avons énormément d'espèces qui sont présentes. Et on a eu toujours. Par exemple, la possibilité d'avoir dans nos entourages, genre de jouer aussi, les demi-elfes, les demi-orques. Et c'est sûr que, par exemple, on n'a pas eu de demi-alf, là, ou des choses comme ça, parce que même si dans Shrek, l'âne a une belle discussion avec un dragon, bon, dans Donjons et Dragons, c'est pas exactement la même histoire.
Tu serais quand même étonné parce que la blague qui revient le plus souvent, c'est on joue à Donjons et Dragons, il y a un dragon, je roule pour séduire le dragon.
Oui. Ça, c'est, alors, voilà. Mais ça qui vient de Shrek.
Bah, je pense que c'était déjà le cas avant, tu sais. Après, est-ce que ça a popularisé ce mime, ce côté-là? Sans doute. Mais je pense que déjà avant, il y avait ce côté un peu je roule pour séduire. Quoi.
Alors, il faudra voir, mais pour ma part, je n'ai jamais entendu parler de cela avant Shrek.
Ok.
Ah, pour ceux qui n'ont pas vu Shrek, c'est que vous avez l'âne, qui en VO était joué par Eddie Murphy, un donkey, qui. Je crois que c'est dans le 2.
Non, c'est dans le 1.
C'est dans le 1, d'accord.
Oui, directement. Oui.
C'est dans le 1, d'accord. Qui va affronter un dragon. Et puis en gros, le dragon tombe amoureux. Enfin, la dragonne tombe amoureuse de l'âne. Et. Donc, il se passe bien des choses, parce que je crois qu'il y a une cigarette à un moment qui est fumée.
Oui, oui.
Mais pour moi, c'est ce point-là. Je ne l'avais jamais vu auparavant, ce même. Et puis, c'est effectivement. Enfin, déjà que dans le film, je me rappelle, dans la salle, tout le monde a fait ah ouais, quand même. Voilà, c'est pour cela que je pense que on l'a. Et c'est vrai aussi que. On se posait la question, on avait donc le demi-orc, on avait le demi-elfe, il devait y en avoir d'autres. Alors encore une fois, on précise, hein, on ne fait pas des recherches exégétiques, notamment sur ce sujet-là dans Donjons et Dragons, parce que c'est un sujet qui est aussi, qui est bon, à l'américaine, hein, qui est toujours bien caché. Et il y a eu, Donc pour cette nouvelle édition qui doit arriver, il y a eu des discussions sur le fait qu'ils allaient changer les règles des demi-races, avec notamment le fait, pour ce qui est par exemple demi-orc, demi-elf, et c'est-à-dire que on allait choisir au niveau des caractéristiques, donc si je me rappelle bien, les une des deux espèces. On ne pouvait pas avoir les deux, il ne pouvait pas y avoir en fait cette mixité.
Oui, c'est, tu ne faisais pas tard cette maison, ah je prends ci, je prends ça pour optimiser. Non, non.
Et également, ce point-là alors, a fait pas mal de débats. Parce qu'en plus, il y a eu des phrases un peu malheureuses en disant oui, c'était raciste avant.
Oui.
Voilà. Et après, donc, d'ailleurs, Wizard s'est plus ou moins rattrapé. Puis a dit non, mais de toute façon, les anciennes règles seront toujours disponibles, ne vous inquiétez pas. Comme toujours, ça fait un petit peu tempête dans un verre d'eau.
Oui. Et je pense d'ailleurs même que, je me trompe peut-être, hein, mais qu'ils avaient déjà peut-être essayé de faire ça plus ou moins avec ta chatte, c'est quand tu crées ton espèce de lignage, de pouvoir prendre une base d'une des races et de modifier peut-être quelque chose. Enfin, pour moi, ça reste... je trouve ça va. Après, est-ce qu'on aurait pu le garder? Je pense que ça peut.
Il y avait aussi eu le fait que dans Tolkien, il y avait les demi-elfes, les demi-orques, que c'était des races séparées, et que vivement Donjon & Dragons a voulu faire pareil. Et puis après, ils ont dit non.
Ouais. Je pense aussi qu'il y avait eu un moment... faut savoir qu'il y avait eu un demi-elfe, demi-orc entier, tu vois, genre les deux parents. Donc t'avais un elfe, un orc, et ça donnait une espèce aussi. Mais je pense que ça fait partie des anciennes éditions. Donc il y avait une versatilité dans les demi-races. Bon, ici ils ont
une vu polyvalence, tu veux dire, mon cher Fabrice.
Oui.
Et oui, il y avait ça. Et il y a aussi des changements parce que le demi-orc. Alors tu vois, le demi-orc, je me rappelle d'articles.
Oui.
C'était dans Cassius ou dans Chronique, je sais plus. Qui parlait du fait que c'était les mal-aimés et tout ça. Et là-dessus aussi, ça a été changé parce que les demi-orques étaient issus de viols d'orques sur des humains. Et ça a été complètement effacé. Et d'ailleurs, tant mieux parce que c'était un petit peu stupide.
Bah après, dans une certaine logique, ça pourrait être le cas. Mais bon, tu peux avoir les deux côtés où tu as toujours l'histoire
d'amour.
Oui,
voilà, c'est ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit ça peut être aussi des relations qui ne soient pas issues de viol.
Oui.
Et puis ça peut aller dans les deux sens. On remarquera d'ailleurs que alors je crois que c'est dans Waterdeep, tu as un PNJ qui est plutôt sympa d'ailleurs, de demi-orc, femme. Et qui aussi dessiné avec des traits qui sont plutôt avenants. Donc on a eu ce changement. Mais reconnaissons effectivement que dans les demi, on a quasiment tout le temps que le demi-elfe, ou le demi-orc, sachant qu'en plus le demi-elfe c'est humain-elfe.
Oui, de toute façon, je pense dans ta cinquième édition, dans le Player Handbook, ils avaient voulu simplifier tout ça en disant, voilà, c'est le profil du demi-elfe, peu importe son engeance, et pareil pour le demi-orc, c'est cette statistique-là, après, vous faites ce que vous voulez, je pense. Et puis bon, soit ça permet de simplifier les choses aussi, hein, c'est pour ça qu'ils le font. Hein. Parce qu'après, tu crées un million de profils pour les demi-espèces.
Oui, c'est ça qui est difficile aussi. Hein. Mais là, et c'est aussi une évolution qui... Enfin, l'évolution du jeu a dû amener cette réflexion. Parce que, effectivement, au début, tu avais une... T'avais finalement très très peu d'espèces. On rappelle l'elfe et le nain dans Donjons et Dragons, pas dans AD&D, hein, dans Donjons et Dragons, c'était des classes de personnages à part entière.
Oui.
On était magicien, mais on pouvait être elfe. Voilà. Et ça, avec l'explosion des espèces, qui fait d'ailleurs que quand tu as des personnes qui ont beaucoup joué au 1, au 2, et puis qui reviennent au 5, ils se disent, mais attends, mais c'est qui, c'est quoi, les tiflins ou
c'est la ménagerie, quoi, pour toi.
Voilà. Et il y a un côté très cantina au bout d'un moment dans les tavernes. Et on pouvait effectivement se poser la question de se dire, alors si on a tout cet univers qui vit ensemble, Bah, peut-être qu'effectivement, il peut y avoir un peu de vin qui coule tard le soir dans une taverne, et pas forcément avec des succubes. Et quelques mois après, parce que je ne pense pas que tout le monde soit sur la base de 9 mois, tadam, arrive un joyeux événement. Alors, je ne sais pas si, quel est l'équivalent des cigognes dans Donjons et Dragons.
Ah oui,
peut-être qu'on a ça qui arrive.
C'est ça, bah, des petits dragons fées, voilà, qui apportent les bébés.
Voilà. Et pour ce qui était dans les... Donc, on a ces demi-orques, on a ces demi-elfes, mais toi, Fabrice, et c'est là où je vais un petit peu te donner la direction et les clés de l'émission. Moi, je vais faire le candide et je vais poser des questions. Tu as fait des recherches, tu t'es sacrifié.
Oui, je me suis sacrifié, voilà. J'ai fait un gros sacrifice, j'ai pris sur moi, j'ai consulté beaucoup de choses sur tout cela. Étant donné que, bah, tout d'abord, il faut dire aussi qu'au fur et à mesure des éditions, le côté un peu sexy de certains... personnages monstres ont eu tendance à disparaître, étant donné que quand tu voyais un peu les représentations avant de nymphes, de monstres un peu charmes, tu vois, tu voyais toujours des jolies demoiselles, on va dire ça, qui a eu tendance un peu à disparaître au fur et à mesure des éditions, étant donné le côté américain, un peu puritain, tout cela. Et bah, quand tu vois, il y a des choses quand même intéressantes à discuter de tout ça, et surtout de pouvoir les jouer, parce que c'est pas tout de ah, tu rigoles, ah, il y a ce qui se passe, voilà, il y a la reproduction qui se passe comme ça, c'est que ça peut amener des choses intéressantes dans le jeu. Mmh. Bon, ici je vais vous parler de quelques monstres, quelques races, voilà, où on va pouvoir voir qu'on n'a pas forcément une reproduction tout à fait classique. Je vais prendre l'exemple en premier des dryades. Donc, tu vois, c'est quoi la dryade, Mathieu? Une petite description pour nos amis qui ne connaissent pas forcément.
Bah, la dryade, c'est cette. Elle est considérée comme créature féerique, hein, je crois, dans.
Je pense bien, oui.
Dans Donjon, et puis bah, c'était des nymphes. Alors, ça vient de la mythologie grecque, hein. Mmh. C'est, c'était des nymphes et des créatures qui venaient des bois.
Oui, c'est ça. Et donc, la dryade, donc faut savoir qu'il y a que des demoiselles dryades et qu'elles sont liées à un arbre en particulier. Elles peuvent s'éloigner de cet arbre, mais vraiment leur cœur est lié à l'arbre. Et bon, s'il y a malheur qui arrive à l'arbre, bah, la dryade devient complètement folle, etc. Mmh. Bon, sans trop vouloir entrer dans les détails, et pourquoi c'est intéressant de parler de notre amie la dryade, c'est que justement, vu qu'elles sont toutes des demoiselles, bah, va bien falloir quand même qu'il y ait un partenaire à un moment ou à un autre. Et qu'est-ce qui se passe pour nos amis les dryades? C'est que quand tu te balades dans les bois tout seul, bah, ou en groupe d'aventuriers, voilà, tu risques pas de les rencontrer parce qu'elles sont assez peureuses, ce genre de choses. Mais si tu as un charmant jeune homme, elle pourrait très bien essayer de te séduire, de te mettre sous son charme et faire de toi son compagnon. En sapant ta volonté.
D'accord.
Alors, il faut que tu remplisses quand même quelques conditions. Il faut que tu sois jeune et très très charmant. Au plus tu es charmant, au plus voilà. Il y aura
t'as trouvé ça où?
Alors, la majorité des informations que je vais vous donner pour cette émission, c'est plutôt sur la chaîne YouTube que je fais souvent référence de Mr. Rex. Et donc, lui, chercher plus loin que ce qu'on vous dit dans la cinquième édition. C'est un peu sa catchphrase, donc sa phrase qu'il répète tout le temps. C'est qu'il voit ce qu'on vous donne dans le bestiaire cinquième édition et puis il fait ses recherches plus loin.
D'accord. On mettra le lien de l'émission pour ceux qui sont intéressés.
C'est cela. Et donc, la dryade peut charmer pendant des années un jeune homme que pour qu'elle en fasse son compagnon. Et une fois qu'elle aura un enfant, qui sera toujours une demoiselle dryade.
D'accord.
À ce moment-là, l'enfant grandira et à partir d'un certain âge, je pense c'est 12 ans, va... soi-même trouver un autre chêne. C'est des chênes particuliers, tu vois, c'est des grands chênes, parce que c'est pas que...
Oui, elle est sur la chaîne, mais... Oui. Effectivement, ce que tu viens de décrire n'est pas dans le manuel des monstres.
Non, et en plus, quand t'es sous son charme et tout ça, même en tant que prisonnier et tout ça, tu n'appelles pas à l'aide. Il y a peut-être ta famille qui va venir t'appeler dans les bois et tout ça. Et toi, en fait, ton premier instinct, c'est de leur échapper pour rejoindre ton amante et d'être vraiment son serviteur. Bon, au bout d'un moment, tu peux résister. Et au plus, t'es intelligent, au plus, ça vient rapidement. Mais ça peut quand même durer quelques années. Et au bout de certaines années, tu retrouves ta conscience et En général, la Dryade peut aussi t'offrir un petit cadeau de remerciement pour tes services. Et tu sors de la forêt et en fait, il s'est passé des années. Et toi, tu es là. Tu fais... ça peut être des bons débuts d'accroche.
C'est vrai, ça, hein.
D'aventure.
Si, si. Je trouve que oui, il y a des belles choses.
C'est ça.
À faire. Oui, ça donne des idées, oui, effectivement.
Et que même, par exemple, imaginons, t'as une aventure, les aventuriers sont chargés de trouver l'amant de la Dryade, et au final, ils arrivent à le capturer, et puis la Dryade est tellement malheureuse et tout ça, elle arrive pour essayer de négocier, de lui rendre son amant, tout ça, est-ce que, voilà, ça met des choses en place. Et t'es loin du monstre à buter comme ça, quoi, tu vois qu'il y a une relation, ce genre de choses. Bon, après, voilà, il y a quand même un charme qui se fait. On va pas le cacher, donc c'est toujours le cas quand tu as une jolie demoiselle et bon, tu as le mec, oh, ça devrait être moi, ce genre de choses. Bon, après...
Alors, t'as quoi d'autre aussi?
Alors, au niveau des dragons, je vais pas tous les faire, hein, mais j'en ai pris certains. Dans les dragons, par exemple, les dragons de bronze, c'est un peu comme certains azos, ils ont une partenaire pour la vie. Et donc, tu as ce côté méga romantique que les dragons de bronze, ils peuvent avoir. Chez nos amis, les dragons bleus, là, c'est un peu spécial, étant donné que au niveau de leur territoire, ils sont censés habiter des déserts, et ce genre de choses, et en général, des grands déserts. Et il y a une sorte de hiérarchie qui se crée, où tu as un suzerain du désert. Et donc, les dragons bleus qui voudront faire en sorte de former un couple. Tout d'abord, il y a aussi... un côté où ils vont se faire des cadeaux, voir si ça passe, ce genre de choses. Et une fois qu'ils voudront aller plus loin, ils devront aller à leur suzerain, donc le terme pour le big boss des dragons bleus du désert, pour qu'il donne son approbation au couple, ou pas, ou ce genre de choses. Et donc ça peut créer des dissensions. Et même là, ça donne une idée d'aventure. Ah, le boss, il est jaloux, et du coup, il veut pas qu'il y ait le couple qui se forme. Et puis le dragon, les deux dragons, ils peuvent aller trouver des aventuriers. Si vous voulez pas le bousiller pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui accepte. Enfin voilà, tu vois, ça peut donner ce genre d'idée, ou même un petit cadeau, graisser la patte, ou j'en sais rien. T'as ce côté-là qui peut être mis en avant. On a aussi...
Alors moi, il y a une question que je me posais souvent. C'est le dragon sous sa forme humaine.
Oui. Oui, parce que t'as les demi-dragons aussi. Donc où ils peuvent...
Un dragon sous forme humaine peut avoir un enfant avec... j'allais dire une humaine, avec une elfe, avec...
Oui, c'est comme ça que tu as les demi-dragons, donc ils sont dans, je sais plus, c'est dans le Monster Manuel ou le DMG, un des deux, où on te propose d'appliquer ça sur un type de créature différente que pour représenter le demi-dragon. C'est assez facile. Après, bon, t'imagines bien que ça se transforme parce que sinon ça donne des scènes un peu bizarres. Mais...
Oui, voilà. Moitié homme, moitié dragon, mais côté droit, côté gauche, donc c'est pas génial.
Voilà. Après, un qui est un peu bizarre aussi, c'est les dragons rouges. Il faut savoir que les dragons rouges détestent tout le monde. Détestent les dragons, détestent les dragons métalliques, les autres dragons de couleur, et même leurs propres confrères rouges. Et tu te fais, ouais, à ce moment-là, s'ils se détestent tous entre eux, comment ça se passe pour faire des enfants, tout ça. Bon, alors là, on est plus sur le côté... et c'est pour ça aussi qu'ils accumulent beaucoup d'or. C'est-à-dire que tu as une position en tant que de dragon. Et ce qui se passe pour les dragons rouges, c'est qu'en général, tu vas avoir un dragon mâle qui sera imposant, tout ça. Et tu auras une jeune dragonne qui se présentera à lui. Et lui, il n'acceptera que... pour prouver son prestige que la demoiselle l'a choisi par rapport à tous les autres candidats, tu vois. Donc ça fait un peu le top G, tu vois, c'est un peu sur les, quand tu vois sur certaines influences que tu peux retrouver sur internet, en mode le gros daddy, quoi, enfin c'est le gros dragon, et du coup il accepte parce que c'est lui le boss, quoi, enfin c'est le genre de choses. Ça peut être un peu bizarre, et sachant que les dragons rouges, une fois que la demoiselle a fait les œufs, monsieur dragon s'en va, voilà, sans autre formule. Et une fois que les dragons sont assez grands, vraiment pour le minimum, la mère les abandonne. Donc, en termes de respect, les dragons rouges, ça se passe là.
Mais c'est intéressant parce que c'est pas du tout des. Mis à part l'Ariel mort quand il fait un dragon pendu en bébé, on a assez peu l'occasion de rencontrer ce genre d'intrigue, d'activité, parce que rencontrer effectivement des bébés orques, on a à chaque fois, les, par exemple, bah, toutes les créatures qu'on va rencontrer dans le Monster Manual, elles sont des créatures adultes. Oui. On n'a jamais effectivement.
Tu as quand même dans le Monster Manual les bébés dragons. Ils sont,
oui, mais ce que je veux dire, oui, d'accord, oui, bébé dragon, parce que bébé dragon, même si des bébés, oui, tu fais attention. Mais si par exemple des gobelins bébés, des choses comme ça.
Oui, oui, oui. C'est vrai que tu as moins ça, tu as directement la version adulte. Bon, parce qu'après, un bébé, est-ce que ça représente vraiment une menace en soi et que tu pourrais pas juste le simplifier avec quelques caractéristiques. Après, c'est la bonne idée d'avoir des bébés, je pense. Dans Baldur's Gate 3, tu as un bébé e-bourse là,
oui,
auquel bah, le groupe peut s'attacher et même le prendre en tant que compagnon, je pense. Au cas où, sachant qu'ils ont tué sa mère, les salauds.
Ah, c'est violent.
Oui, oui. Et ça aussi, tu vois, si on a différents dragons, tu peux avoir les dragons qui vont vraiment protéger leurs petits, quitte à en mourir, ou bah, les dragons rouges qui vont laisser leurs petits, tout ça. Et tu as même aussi la possibilité d'avoir ces bébés dragons qui vont pouvoir demander de l'aide à d'autres dragons. Pour s'occuper d'eux, ce sera souvent des dragons qui n'ont pas la capacité ou plus la capacité d'avoir eux-mêmes des enfants qui vont s'occuper de ces petits jeunes et tout ça jusqu'à ce qu'ils soient assez adultes, sauf pour les dragons rouges bien entendu, étant donné qu'ils détestent tout le monde.
Ouais, ça me donne encore une fois, ça donne plein d'idées de jeu.
Oui, 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 voilà.
Et tu sais, je pense vraiment que tu vois des aventures en bas niveau.
Mm-hmm.
Avec des bébés dragons, outre le côté Shrek, hein. Mais ces aventures en bas niveau, ça pourrait donner aussi des choses avec beaucoup de potentiel. On en avait déjà discuté, c'est que pourquoi est-ce que faut que t'attendes tel niveau pour rencontrer tel type d'objet magique, telle arme, telle créature.
Oui,
tu pourrais avoir effectivement dès tes bas niveaux, c'est ça, et ça amènerait aussi une différente manière. Parce que les monstres, ils sont bien là pour être... On va pas se mentir, ils sont là pour être tués.
Oui, oui.
Sinon, il n'y aurait pas les caractéristiques. Et là, ça amènerait une autre... un petit côté ménagerie. Mais ça, ça amènerait d'autres interactions et d'autres manières de voir les choses.
C'est pour ça que j'avais bien aimé aussi le côté... ils avaient sorti un livre sur les bébés... les bébés monstres, je sais plus comment ça s'appelle, Black Book les avait traduits en français.
Oui, tout à fait, oui, je me rappelle, exactement, oui, exactement, oui.
Et ça pouvait, tu pouvais tirer beaucoup d'inspiration là-dessus, justement.
Tout à fait, alors c'était, ouais, tu pouvais en prendre, mais ils avaient un côté ultra, ultra mignon,
mm-hmm,
qui n'était pas forcément dans les codes Donjons et Dragons, enfin, puisqu'on oui, parle là de Donjons et Dragons. Mais ça... Alors je sais, moi j'avais des amis où j'avais déjà entendu hein, des échos, je sais plus où c'était, où effectivement tu tombais face à des... c'était des gobelins, mais c'était des enfants gobelins.
Mmh.
Et le maître de jeu avait fait un truc, c'était... oui, les gobelins sont là, parce que tu sais, t'as toujours ce fameux truc du gobelin hein, qui arrive en horde, mais ils étaient là parce qu'il y avait eu un souci et donc tout le monde avait accouché, donc c'était rempli d'enfants gobelins. Et la question que se posaient les joueurs, c'est ben on en fait quoi? Mmh. Et s'ils avaient été plus grands, ils auraient massacré de gaieté de cœur, mais comme ils n'étaient pas plus grands, mais qu'ils savaient qu'à un moment ils allaient grandir, ils allaient être ce même danger. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que autant tu n'as aucun scrupule à massacrer du gobelin qui sera. D'âge adulte, autant quand tu dis des gobelins bébés ou des bébés gobelins, c'est plus le terme gobelin qui prend le dessus, c'est le terme bébé.
Oui.
Et c'était différent.
Oui, à moins que tu t'appelles Goblin Slayer, t'as rien
voilà,
à faire.
À moins que...
et que tu veux exterminer le gobelin, c'est des enfants, bah ils sont pas innocents, ils attendent juste de commettre des méfaits. Donc là,
bah, voilà, il était dit dans la pièce de Shakespeare le conte d'hiver, et est-ce que tu as le roi à un moment qui doit tuer enfin qui se pose la question parce qu'en fait de tuer l'enfant de son rival, et il dit mieux vaut le tuer maintenant que le, enfin mieux, je crois qu'il dit même mieux vaut le brûler, enfin mieux vaut le tuer maintenant que le maudire plus tard, donc voilà, clic.
Et voilà, c'est pas pour rien que lors de ces sessions il y a souvent les enfants qui y passent aussi.
Voilà, c'est exactement. Alors, tu as quoi d'autre comme créature?
Alors, j'ai le sphinx, par exemple. Le sphinx, là, c'est un peu particulier, étant donné que le sphinx, tu connais la vision du sphinx avec une tête de, oui, d'homme ou de femme. Donc là, pour la version femme, tu as le nom qui est le gynosphinx, je pense, et l'androsphinx pour l'homme. Et donc, tu as ces deux versions qui sont les versions les plus abouties des sphinx, mais il y a des sous-espèces où tu as une tête de bouc ou une tête de faucon à la place d'un visage d'homme, et ceux-là, ils ne peuvent que se reproduire avec une madame sphinx, donc avec le visage de la femme. Et donc, ce qui est un peu particulier, parce que madame ne désire pas... avoir des enfants avec ceux-là, étant donné qu'elle juge comme inférieur, et d'ailleurs aussi le fait est que une telle union ne peut produire que la sous-espèce, en fait, c'est-à-dire que avec le sphinx bouc, tu n'auras qu'un enfant bouc, peu importe la préférence.
Alors, c'est encore dans l'émission dont tu parlais que t'as eu ça?
Oui, bah après, c'est une vidéo à chaque fois. Bah, dans les anciennes éditions, tout ça, tu avais beaucoup plus d'informations en général sur tout cela.
Bah, on n'a pas lu les mêmes.
Ah, bah, apparemment.
Non, je comprends tout à fait. Ouais. J'ai essayé de regarder dans une, là, pendant que tu parles de. J'ai essayé de regarder dans une pour voir. Pour voir les sphinx, parce que bon,
oui. Et là même aussi, petite particularité pour les sphinx, il faut savoir que les hommes, donc avec la tête d'homme sphinx, ont du mal aussi à prendre le côté paternité, étant donné que pendant toute la période où la maman est enceinte, il est obligé de rester avec elle, et qu'en fait la maman est beaucoup plus intelligente que lui, et en fait il ne supporte pas cela.
D'accord.
Donc voilà, on t'apprend des petits trucs comme ça, pourquoi pas. Mais te dire que ça peut représenter éventuellement un défi, ce genre de choses, où justement tu auras ce que j'appelle les sous-espèces qui vont chercher une demoiselle, et ils vont peut-être faire appel aux aventuriers en disant « vous pouvez m'aider » ou quoi, enfin, je ne sais pas.
Ah, est-ce qu'il, pour le coup, on pourrait carrément être amener un joli dilemme moral.
Oui.
Savoir, mais pourquoi est-ce qu'on le fait? Alors, je regarde dans le livre, si je vois le sphinx, ok, je le vois. Alors là, j'ai mon Monster Manual AD&D. Et alors donc, c'est... Qu'est-ce qu'un sphinx? Tiens, à ton avis, c'était quoi comme alignement, un sphinx?
Loyal bon, étant donné que c'était censé être des serviteurs des dieux, tout ça. Enfin, c'est ce qui est resté, hein, mais...
Ouais, alors là, il y a le Gino Sphinx, hein, tu as tout à fait raison. Lui, il était neutre. Lui ou elle était neutre. Et il le disait pas. Alors après, je pense que il y a. Bon, là, ils en parlent pas. Hein, parce qu'ils parlent surtout des rugissements du Sphinx. Alors, l'image a un côté peluche, qui fait un peu la tête, mais quand même un côté peluche. Je pense aussi que. Je sais que le magazine Dragon.
Oui.
Avait aussi fait pas mal de séries l'écologie de.
Oui, bah oui, bah justement.
Peut-être aussi décrit là-dedans. Je pense même d'ailleurs que c'est effectivement peut-être plus quelque chose du côté Dragon Magazine que vraiment du côté supplément officiel. Parce que le côté Dragon Magazine, ça laisse moins de traces quand même.
Oui, c'est ça. Ou même voilà, défendre la madame qui désire se rendre autre part sans se faire agresser. Parce que une des choses que j'ai pas dit, c'est que oui, les deux autres espèces, en fait, ils sont plus forts physiquement que la demoiselle, et donc là, forcément, ça peut créer des soucis. sinon, prochain monstre, on va parler de la chimère, de chimera en anglais. Et là, c'est un peu particulier, étant donné qu'aussi elle peut faire des mélanges, mais en fonction du partenaire, ça crée d'autres types de chimères. Si tu prends la gorgone, donc qui est l'espèce de taureau qui peut pétrifier avec son souffle, tout ça, ça remplace la tête de la chèvre, étant donné que la chimère dans Donjons et Dragons, tu as une tête de dragon, une tête de lion et une tête de chèvre. Qui sont sa forme basique, et là justement la tête est remplacée par celle du taureau, où il crache et peut pétrifier justement encore plus, donc ça crée vraiment une espèce. Après, elle peut cette espèce-là ne peut pas se reproduire par elle-même. C'est-à-dire que voilà, c'est une engeance qui est créée, mais ne pourra pas se multiplier par elle-même. Et sinon, il y a aussi un qui a l'air totalement horrible, c'est la chimère et la Thessal Hydra. Et donc, ça donne une abomination. T'as une tête d'hydre avec ta chimère, quoi. Et donc, ouais. Tu craches du feu sur je sais plus combien de têtes, 8 ou 9, un truc. Alors,
ce qui est aussi assez intéressant, c'est que quasiment tous les monstres que tu viens de proposer, ils sont issus de la mythologie.
Oui.
Là, c'est peut-être que justement. Quelque... Puis on sait que chez les Grecs, ils aimaient bien faire des mélanges.
Oui, c'est ça.
À des docteurs moraux au niveau des différentes créatures. Et t'as trouvé, par exemple, un truc. Comment ça se reproduit, un Beholder?
Ah bah justement, je l'ai dans mon tas. Donc ça, c'est dans les combinaisons un peu bizarres.
Je tiens à préciser, hein. Je ne sais pas. C'est Fabrice qui s'occupe de tout. Je ne sais pas du tout les créatures qu'il va proposer. Hein, donc
donc le Beholder, je pense que tu en avais déjà parlé, étant donné qu'on avait un peu parlé du Beholder dans les monstres mythiques qu'on avait pu trouver. Et je t'avais parlé qu'il rêvait et qu'il pouvait changer son apparence par le rêve et tout ça. Et oui. Justement, s'il rêve de lui-même, il peut créer un double. Et c'est comme ça que tu as à voir les Beholders qui se reproduisent. Ils se reproduisent par le rêve, donc ils se reproduisent eux-mêmes, entre guillemets. Ou, tu sais, il y a des sous-espèces de Beholders. Notamment le Dead Kisser, donc c'est un qui va aspirer ton sang. Ici dans la vidéo il disait s'il y a une confrontation avec le Beholder qu'il a beaucoup saigné et tout ça, il va revivre éventuellement cette expérience traumatique et va penser et créer un Dead Kisser, donc je sais même pas le terme en français exactement, mais donc c'est le Beholder qui a des tentacules et tout, un œil rouge plus une espèce de sangsue. S'il rêve de trésor, il va créer un Gazer, je pense,
ouais.
Ou un autre. Bref, je ne sais plus sur le.
C'est assez excellent. Je trouve ça très très bon.
Oui. Et en gros, ce qui se passe, c'est il rêve de lui-même, il va créer son double, comme je disais. Mais en général, ce qui se passe, si le Beholder naît à proximité de son origine, c'est qu'ils vont rentrer en duel et il y a un des deux qui va mourir en fait. Donc il n'y aura plus que un. Mais ils se reproduisent si le rêve fait en sorte d'avoir le Beholder assez loin, qui ne va pas se retrouver directement en conflit avec son double au final.
Alors ça, et puis donc ça ferait des bébés Beholder.
Oui. Et puis, tu as aussi les mini-Beholders que tu peux retrouver par la suite.
Alors, tu as le Mandalorian avec un bébé Yoda.
Oui, oui. Non, bah, je pense Yoda. Dans un des familiers possibles pour le Warlock, ou je ne sais plus, le magicien, c'est d'avoir un Gazer qui est une espèce de sous-Beholder qui a qu'un seul œil et qui fait de la fumée, ou je ne sais plus quoi. Enfin, bon, ils avaient rajouté ça plus tard. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas avoir ça en tant que familier? Dans la reproduction plus classique, un animal aussi mythique que le Beholder, il s'agit du Kraken. Donc, nos amis les Kraken, c'est un peu particulier.
Puisque en taille, c'est un peu grand quand même.
Oui, c'est grand, et surtout que c'est assez compliqué, étant donné que quand tu regardes le Kraken de la 5ème édition, tu vois une espèce de monstre marin. Un peu tortuesque, ouais. Avec une tête bizarre et tout ça. Et quand tu regardes les anciennes descriptions du Kraken, on te fait, c'est un géant, c'est un poulpe géant au final. Et effectivement, ouais. Quand ils naissent, et c'est comme ça que dans Ghost of Swordmarsh, tu as le Kraken juvénile, qui est représenté par justement un grand poulpe. Et on te fait, c'est un Kraken. Moi, la première fois que j'ai regardé ça, je fais, quoi, un Kraken? Et justement, ils naissent comme ça, ils naissent en grand poulpe, et par la suite, par des rituels, par des transformations, ils changent leur corps. Et une des choses qu'ils veulent souvent changer, c'est l'appel de la nature. Étant donné que tous les 100 ans, il y a ce qu'on appelle une compulsion qui se fait chez les Kraken, qui font en sorte qu'ils doivent aller un espace dédié pour rencontrer des demoiselles. Sauf qu'en tant que monsieur, tu risques beaucoup ta vie à aller t'acoquiner, étant donné que les demoiselles Kraken sont assez elles ont des grosses compulsions, quoi. Et et quand au final, plus d'un monsieur Kraken finit déchiqueté par autant d'amour que peut produire les demoiselles.
Alors sur le coup, c'est assez marrant parce que l'appel de la nature, c'est aussi le nom que tu donnes en anglais quand t'as envie d'aller aux toilettes.
Ah.
Nature calls. Alors effectivement, donc là, le Kraken, donc c'est taille gargantuesque.
Oui.
Merci Monsieur Rabelais d'être dans Donjons et Dragons. C'est combien ça a de points de vie un Kraken?
Oula, de mémoire comme ça, au moins 400, je dirais.
Ouais. 400. Alors, c'est 27 des 20 plus 189. Ça, j'adore. C'est le. Donc 472. Mais j'adore le côté 27 des 20. C'est le 27, hein, pas 26, hein, 27. Et le. En. 3 attaques, action légendaire. Et le. Une attaque par tentacule, c'est plus 17 pour toucher.
Oui, c'est monstrueux un Kraken, c'est monstrueux. C'est,
et 3d6 plus 10 quand t'es touché, donc plus 17, voilà, au revoir. et sachant qu'il peut aussi. Tu peux utiliser Lightning Storm et ils ont un nuage d'encre. Mais ils ne disent rien sur les modalités de reproduction. Même s'il parle le langage des abysses, céleste, infernal, primordial et télépathie.
Oui. Ça vient là. Et ils sont savants. Et justement, tu parlais d'éclairs et d'encre noire. Il faut savoir que lors de cette fameuse zone de reproduction, il peut arriver à avoir de l'impact sur notre environnement, étant donné qu'ils peuvent créer des tempêtes cataclysmiques même, qui font en sorte de durer des mois, voire des années. Sur le reste de l'environnement, quoi. Donc tu pourrais très bien avoir une aventure, oui, il y a une tempête qui se déclare, il y a une marée en plus étant donné qu'ils se font déchiqueter, et il y a des parties de Kraken qui s'échouent sur les côtes, et tu fais mais qu'est-ce qui se passe? Et bah c'est la saison des Kraken, sachant qu'en plus tant que toutes les demoiselles n'en sont pas contentées et n'ont pas un enfant pour elles, la compulsion ne s'arrête pas. Donc c'est un acte assez compliqué pour ne faire monsieur, et ça les range beaucoup, à tel point qu'ils font tout pour essayer d'éviter cela, quitte à se faire opérer ou utiliser des potions, se castrer, devenir mort-vivant. Donc ça peut représenter beaucoup de choses pour nos amis les Kraken, et ça peut faire des idées d'aventure aussi, où imaginons il a besoin d'une potion spéciale, notre ami tout puissant Kraken, mais pour ce faire il a besoin d'envoyer des gens aller chercher une plante ou un ingrédient sur la terre où il ne peut pas accéder, où il n'a pas les ressources. Donc peut-être qu'il capture nos aventuriers que pour l'aider dans sa quête.
C'est là où je me dis quand même que la personne qui a écrit l'article ou le truc pour parler de ça, il a quand même dû pas mal rechercher.
Oui, bah oui, c'est ça. Et puis bon, t'as un peu peut-être le côté pas mente religieuse non plus, mais dans le sens où voilà, tu vois, c'est les messieurs qui peuvent subir aussi le courroux des demoiselles. Et d'avoir ce côté-là, je trouvais ça intéressant, ou même du simple fait que t'as un environnement qui change. Après, heureusement, ça arrive que tous les 100 ans, apparemment. Et d'avoir ce problème-là, quoi. Et si tes aventuriers sont assez au niveau de pouvoir enquêter, et puis ils font, oh mon dieu, mais c'est ça en fait. Ah, mais c'est dégoûtant.
Oui, ça peut être ça. Oui, c'est. C'était comme. Tu vois, par exemple, dans des naissances, c'est les fameux. Draconiens dans Dragonlance qui sont en fait des œufs de dragon que soi-disant Takisis avait pris ses œufs pour empêcher les autres dragons d'intervenir, mais elle a pris les œufs, elle les a corrompus et ça a donné cette naissance. Mais il y a un côté un peu magique et tout ça, c'est différent là dans la manière dont tu parles. Alors toi, tu nous as parlé des très très grands, t'en as sur des plus petits?
Des tout petits, ouais, plus petits. Dans le sens, les mimiques, ça te parle, hein, ça parle un peu à tout le monde, les mimiques.
Les mimiques, il y a un truc, ah bah oui, comment ça se reproduit?
Ah oui, comment ça se reproduit, Mathieu? Bah justement, je suis là pour répondre à vos questions.
On va faire un numéro spécial, tu sais.
Oui,
son corps change.
Effectivement. Donc les mimiques, faut savoir qu'elles représentent une certaine taille et au fur et à mesure qu'elles consomment de la nourriture, bah elles grossissent jusqu'à atteindre une certaine masse critique et se divisent en deux parties équivalentes. Et c'est comme ça qu'ils se reproduisent. Et cette masse-là, dans la plupart des cas, il n'y a pas de souci. Une fois qu'elles arrivent à un certain poids, elles se divisent. Et puis, bah voilà, tu auras deux frères ou deux sœurs. On ne pourra pas dire que vraiment ils sont assez sexués hein, en termes de mimiques. Voilà. Et c'est pour ça que tu pourras retrouver des mimiques plus petites, étant donné qu'elles viennent se diviser, peut-être. Parce que les mimiques, normalement, un mimique qui atteint sa taille adulte, c'est représenté par une grande carpette, l'équivalent mais d'un coffre royal, tu vois. Donc quand tu trouves coffre...
Justement, on va juste préciser pour les personnes qui ne sauraient pas, le mimique, c'est un monstre assez improbable.
Oui.
Qui, en fait, prend la... l'apparence d'un coffre.
En général, oui.
En général, et on l'ouvre, et là, boum, il y a... Alors, on le voit dans le jeu Donjons et Dragons. Et alors, le mimique, hein, c'est une créature... je crois qu'on l'avait parlé, d'ailleurs, dans l'émission sur les... On en avait parlé sur l'émission des monstres improbables, ouais. Là, c'était typiquement fait dans les premières années de Donjons et Dragons, où il fallait trouver des pièges, fallait... D'ailleurs, on fera une émission sur les pièges, j'y pense. Et où bon, il fallait trouver quelque chose pour créer encore plus de paranoïa, c'est les joueurs. Voilà, c'était juste pour le préciser. Et maintenant, nous savons qu'elles se divisent en deux, un peu c'est comme ça. Les Gremlins.
Et justement, des fois, ça arrive qu'une fois qu'elles atteignent leur masse critique, elles continuent à grandir, grossir. Et c'est à ce moment-là que tu pourrais avoir des mimiques qui, au lieu de représenter un coffre, représentent une maison. Tu as pu voir ça parfois.
Ah non, ça, j'avais pas vu ça.
Ah oui. Je sais plus c'est dans quelle aventure en 5ème édition justement il y a une maison mimique, ce genre de choses. Même dans Tasha, il développe un peu plus le côté mimique, il te donne plusieurs. Il diversifie un peu le côté mimique en donnant un peu d'autres types de mimiques et tout ça.
Effectivement, j'avais jamais vu ça. Alors, ici dans les commentaires, vous voyez dans lequel en 5E, je ne vois pas trop le celui-ci. Je vois pas dans quel scénario ça pourrait être. Mais
c'est peut-être sur une illustration, je me souviens plus maintenant. Mais en tout cas, je suis sûr et clair que d'avoir une espèce de mimique qui était une maison. Après, je pense que c'était peut-être dans le Dungeon Master Guide qui avait l'illustration, mais je pense qu'elle a été utilisée en aventure. Après, je me trompe.
C'est possible, de toute façon.
Et sinon, un peu dans le même ordre d'idée, tu as notre ami le cube gélatineux. Et. Bah oui,
ouais, c'est l'image mentale là maintenant.
Bah comment ça se reproduit le cube gélatineux, hein?
C'est pareil, ça se divise.
Alors effectivement, ça se divise, c'est-à-dire qu'une fois que ça atteint sa masse critique, ça se divise en deux. Donc pouc, tu te retrouves à avoir deux cubes gélatineux. Et il y a des. Mais qu'est-ce qui se passe si deux cubes gélatineux se retrouvent l'un en face de l'autre? Et eh ben, ils fusionnent ensemble pour un certain nombre de temps avant de se rediviser de manière égale. C'est-à-dire que c'était un plus grand cube gélatineux et un plus petit, bah, ils se redivisent, mais avec une masse égale par la suite. Tu peux faire ça qu'avec deux cubes, pas trois, ça fonctionne pas apparemment. Donc, ça, c'est les infos que j'ai pu avoir.
On compte en. C'est l'américaine, hein, c'est oui, voilà. Le reste.
Bah, sinon, ça crée un monstre énorme parce qu'il faut dire, imagine que les deux cubes qui s'assemblent, déjà, c'est un adversaire grand. Donc là, ça devient un adversaire géant. Bah, tu commences à continuer comme ça, et puis bah, il fait la taille d'une ville. Ton cube gélatineux.
Mais en revanche, là aussi, super idée d'histoire.
Oui, oui. Tu peux avoir des trucs sympathiques là-dessus. Et à côté de ça, dans certains cas, tu peux avoir donc ton cube gélatineux qui se balade, et puis il y a un bout du cube qui se détache, et donc ça fait un. Donc au lieu de se diviser par égal, donc ça se détache en petits morceaux. Donc tu as un mini cube gélatineux, un tout petit bébé.
Oui, donc là effectivement, voilà, on comprend le. Sachant que le. Ça, on l'avait vu aussi, hein, tout ce qui était dans le cube gélatineux disparaît au bout de je sais plus combien de temps, donc ça.
Oui.
Ça rire. Alors, t'as quoi d'autre?
Alors, j'en ai d'autres. Je pense que tant qu'on est sur un peu les créatures mythiques, je vais faire les illithides, donc les Manflayers. Donc là, je pense qu'on avait touché déjà un mot, c'est-à-dire que eux, comment ça se passe, c'est que ils ont l'espèce de larve là qui t'injecte.
C'est les flagelleurs mentaux, hein, on précise hein, aussi. Hein, pour
donc, c'est ceux que vous avez pu voir dans la vidéo de Baldur's Gate 3, le trailer, la promo. Donc cette espèce de tentacule cthulhuesque. Et donc eux, ils ont un bassin où ils ont un tas de larves, tout ça. Et en fait, ils prennent juste les larves et les injectent à différents sujets. Et si le sujet est humain et il correspond à une certaine taille, à un certain poids, donc ça doit être très précis, attention.
Oui, j'ai l'impression.
Ça refait un flageur mental, tout pareil, sachant qu'ils n'ont pas de traits particuliers. Une fois transformé, il ressemble à un autre flageur mental. Donc ça c'est un peu, même si à la base ils étaient légèrement différents, c'est-à-dire qu'ils étaient un peu plus petits ou un peu plus grands, bah ils s'adaptent pour avoir vraiment cette taille-là. Donc il y a, on va dire, une sorte de pattern qui est là pour les flagelleurs mentaux, et une fois que tu es vraiment implémenté et que tu te transformes, bah tu te transformes en cette forme-là. Et c'est comme ça qu'ils se multiplient au final. Donc tout simplement par l'insertion d'une larve. Et tant qu'on est un peu sur les trucs un peu bizarres, tout ça, j'en ai un autre. Et là, ils sont dans le manuel 5ème édition, c'est les Slads. Je pense pas qu'on les a vus beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui les utilisent. Donc c'est des espèces de grenouilles de différentes couleurs qui viennent typiquement des limbes. Donc les limbes, c'est un des plans inférieurs, c'est un truc assez chaotique, bref, on va pas rentrer sur ce sujet là. Et ces espèces de grenouilles, c'est un peu particulier, étant donné que tu as deux types de grenouilles à la base, qui sont les grenouilles bleues et les grenouilles rouges.
Et je crois que t'as des vertes. En fait, je crois qu'il y a même un paquet de couleurs.
Oui,
qui faudrait chercher Slad, hein, c'est SL2A. Hein, c'est SL2AD.
C'est ça. Mais la verte est un peu spéciale, étant donné que tu vas comprendre vite pourquoi. Parce que donc le rouge et le bleu, en fait, pour faire des bébés, ils ont deux méthodes. Sachant que je vais reprendre justement mon petit bouquin Monster Manuel pour éviter de me tromper. Étant donné que les rouges ne peuvent donner que engeance à des bleus ou des verts.
Donc là, c'est un code couleur.
Il y a un code couleur. Et les bleus ne peuvent donner naissance qu'à des rouges ou des verts. Et tu vas me dire, ouais, mais le vert, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, le vert, c'est assez particulier, étant donné que si la cible peut lancer des sorts de niveau 3, va se transformer en vert. Donc, c'est une espèce particulière. Les stades. Oui. Et comment ça se passe tout cela? Donc, le rouge, il t'injecte. Donc, les deux ont des griffes. Le rouge a des griffes comme sur une main humaine, on va dire. Donc il a une main à 5 doigts, et il a des énormes griffes, et il te blesse, et en fait, dans ces griffes, il t'injecte une larve qui va te dévorer de l'intérieur, un peu comme sur Alien, et puis au bout d'un moment, bonjour, je suis là, et je suis un Slad qui sera bleu ou vert, dépendant
de
la cible. C'est abominable, effectivement. Et donc, tu peux avoir cela. Et tu as la version bleue, ou la version bleue aussi, il a des griffes, mais il a plus des griffes au niveau de sa... De plus longues griffes, un peu comme un félin, et qui partent de sa main au-dessus. Et lui, te griffe, et en fait, il t'empoisonne. Et après un certain nombre de temps, tu te transformes en Slad. C'est même pas... c'est vraiment toi qui changes, un peu comme les illithides qui t'injectent. C'est que toi-même, tu vas changer.
Ah oui, en plus, alors, c'est une créature, hein, elle remonte à...
Ah oui.
Elle remonte à la première édition de AD&D, hein.
C'est
un gros, gros classique. Alors, évidemment, elle a beaucoup évolué, mais c'est vraiment un très gros classique. Tu sais, en fait, je pense que c'est un truc, c'est qu'à un moment, il faudrait qu'on se fasse un quiz, le quiz des alignements. Ah. Tu sais, c'est, alors, cette créature, à votre avis, quel alignement... quel alignement ça peut être.
et donc ça peut être particulier cette rencontre, étant donné que, imaginons, tu tombes là-dessus, des aventuriers, bon, ils les affrontent, hein, c'est des aventuriers forcément, mais ils ont été blessés lors du combat. Et au bout d'un moment, soit il y a peut-être un petit bébé alien qui sort, soit il se transforme même en odieux batracien. Sachant que tu peux guérir tout ça, la transformation, tu peux la guérir. Et puis bon, pour enlever le parasite, va falloir peut-être une petite opération. Et c'est pour cela aussi qu'en cas d'attaque, les Slads, ils sont quand même assez intelligents. C'est-à-dire qu'ils prennent leurs victimes et ils savent que les victimes vont se transformer. Et pour sauvegarder la progéniture, ils vont faire en sorte de les capturer et de les emmener jusqu'à ce qu'ils se transforment au final. Que le bébé, donc la créature alien soit née ou que la personne se transforme. Particulièrement si l'un des personnages ou l'un de leurs victimes est une personne qui peut lancer ses sorts de niveau 3, étant donné que ça va être une transformation en slad vert et qui sont un peu les chefs, mais qui sont aussi vénérés. Et c'est ces slads là qui vont évoluer sur des slads d'autres couleurs. Donc après tu as le gris, puis tu as le celui de la mort, et puis tu as d'autres variantes qui sont pas abordées en 5e édition. Mais en gros, au fur et à mesure que ton slad vert vieillit, il va devenir de plus en plus puissant, etc. Il doit
ça aussi, hein. Ça fait des belles idées d'intrigue. Oui.
Il doit faire de la méditation, tout ça, pour passer aux différentes étapes, évoluer, ce genre de choses. Donc, j'ai trouvé que c'était assez intéressant de parler de ce slad.
Mais ils sont dégoûtants. De toute façon, les slads, ils sont dégoûtants.
Oui.
Et là, tu vois, ce que tu parlais des codes couleurs, faut savoir, dans la... Tu avais première édition... Parce que la première édition, c'était la vraie. quand un slad te touchait, un slad rouge,
ouais.
Tu avais 40% de chance. En fait, en gros, tu devais faire un jet de sauvegarde. Mm-hmm. Et s'il était raté, tu avais 40% de chance de mourir dans 3 des 12 heures.
Ah oui. Bah là c'est un peu dans la même idée, sachant que du coup tu as la larve et ça dure 24 heures de gestation. Et t'as des tests à faire forcément, mais...
oui. Wow.
Oui, c'est violent, hein, parce que ton beau guerrier est niveau 12, tout ça, là, et puis t'es là, tu fais... Bah, hop, il est mort à la vieille.
Tu m'étonnes. Et... C'est vraiment super. Hein.
Oui, bah, je trouve c'est intéressant de creuser tout cela. Bon, là ici j'ai fait ma petite liste, mais on va pouvoir faire un peu l'après, hein, du coup. Mmh. C'est-à-dire que ça donne aussi une forme d'écologie du monstre, que le monstre il n'est pas juste là pour éventuellement se faire massacrer. Il y a d'autres choses derrière.
Ouais. C'est ça. C'est qu'effectivement on est en, comme on disait, c'est pour le combat. Finalement, on est toujours on est présent dans la fin de vie du monstre. Mmh. Sans chercher outre mesure d'ailleurs. C'est, et tu sais, j'en revenais à ce fameux article que j'avais lu donc il y a fort longtemps. Et le truc c'est, t'avais un demi-orc ou t'avais un orc qui arrivait, qui levait la main en signe de paix, et puis c'était écrit les joueurs, le massacre et tout. Mmh. Ça, puis ils se rendent compte que... oui, c'est ça, non, il levait la main parce qu'il avait une pomme, et les joueurs le massacrent, et puis le monstre était juste là, il venait en signe de paix, et puis t'as les joueurs qui font « Regarde, il a voulu nous empoisonner !» Et ça peut changer, et je pense aussi que quand on voit l'évolution de cette 5E, il est probable qu'on avance peut-être vers peut-être plus d'humanité dans... Mmh. Dans les monstres, il y a des trucs, hein, qui sont absolument écœurants, effectivement, quand tu dis ça, mais ça amène beaucoup plus de profondeur. Aurons-nous dans le prochain Monster Manual une catégorie mode de reproduction?
Je pense pas, parce qu'il y a le côté puritain américain qui est là. Mm. Et à moins de chercher les infos, tu me disais où c'est? Bah voilà, j'ai dû les chercher sur quelqu'un qui avait regroupé tout cela, hein, qui avait fait. Il fait un
gros travail. Je pense que ça venait de Dragon.
Oui, mais voilà.
Je pense que c'est impossible autrement, en fait.
Ou même t'inventes, hein. Tu es là, t'as une espèce de tigre volant, hein, voilà. Tu inventes un monstre, un tigre volant, et au moment de la reproduction, il doit accomplir un défi, tu vois, affronter quelqu'un de fort, quelque chose de fort, pour prouver qu'il est le plus gros, le plus mâle des tigres volants de la région, pour séduire les demoiselles, et il affronte des aventuriers. Donc tu as une rencontre où le tigre il te fonce dessus, tu demandes pourquoi, et en fait, bah voilà, il essaie juste de montrer que c'était lui le plus fort.
Alors, ça, c'est effectivement un autre aspect trop peu connu. Faudra qu'on on arrive là à la fin de l'émission. Faudra qu'on fasse un truc là-dessus. Oui. Je pense qu'on pourra revenir éventuellement. Je pense que Fabrice, tu vas devoir te resacrifier.
Je vais devoir me resacrifier. Bah après, je pense aussi, on a parlé plus de biologie, mais il y a tout le côté amoureux, voilà, comme je disais, les espèces avec des dragons, les dragons de bronze qui ont qu'une seule demoiselle ou mâle, enfin, un seul couple, quoi, hein, comme certains
oiseaux. C'est vrai que de toute façon, la forme de séduction dans Donjons et Dragons, enfin, quand. C'est bon, en gros, si tu lances un dé, hein,
oui, c'est pour ça aussi. C'est pour ça que je suis en mode le côté un peu la blague, hein, comme on début, disait en début d'émission. Je lance pour séduire. Voilà, oui. Tu la craques deux, trois fois, mais à chaque fois, t'es là. Et puis, dans Baldur's Gate 3, ce côté un peu séduction où tu as cette scène, c'est une des dernières scènes qui avait été diffusée avant la sortie du jeu, où tu avais une scène d'adulte entre un druide qui s'est transformé en ours et un des personnages du jeu. T'es là, t'es... Ah ouais. Donc ça aussi, tu vois, t'as une petite interrogation là-dessus.
Ah oui, totalement. Et c'est justement... moi, je pense que ce jeu, Baldur's Gate, je vais... Quand j'aurai ma PS5 et que j'aurai du temps, je pense que j'aurai la PS5 avant d'avoir du temps. ça fait partie des jeux que j'ai envie de... que j'ai envie d'explorer. Justement pour voir comment tu peux retrouver tout l'univers. Et bah, c'est vrai aussi, c'est que c'est évident que tu vas avoir des choses que tu n'as pas dans les règles. D'ailleurs, ils ont dit un mot sur l'aspect canon ou pas de Baldur's Gate.
Ah, j'avoue que je ne sais pas. Non, comme ça, je pourrais pas te dire. À mon avis, il y a quand même un accord, surtout qu'il y a eu un grand succès.
Oui.
Ça aurait été pas un succès, ça aurait été... Non, c'est pas canon.
De toute façon,
au moment où Jeremy Crawford a dit chaque licence a son propre canon, tu sais, quand ils avaient annoncé ce truc-là, à partir de ce moment-là, ça les canons, si tu veux, tu vois. C'est pour ça. Je pense aussi qu'ils avaient dit ça à ce moment-là. C'est pour éviter d'avoir un département qui est en charge de gérer tout le canon, quoi.
Parce que... Ça arrache les cheveux pour... Alors, dans tel supplément, il y a eu ça, mais dans tel autre, il se contredisait. Ouais, je comprends.
C'est ça.
Je comprends tout à fait. Bon, en tout cas, bah, Fabrice, un grand merci pour cette... pour ce tour de zoologie, je sais pas trop comment l'appeler en fait.
Oui, biologie, zoologie, tout cela.
Tout ce qu'on a pu apprendre. Et c'est vrai que ça donne aussi des idées de. Et à chaque fois, tu vois, ça me donne des idées pour des jeux en bas niveau.
Ah.
C'est pas pour des jeux sur du haut niveau.
Et même voilà, en pleine aventure, imaginez, vous êtes dans un donjon, vous voyez un cube gélatineux division 2, fait,
okay. Regardons ailleurs, les gars.
Get a room,
oui, ça pourrait être.
Mais okay, juste avoir ces petites infos, ça peut rajouter du contexte dans ton jeu, quoi.
Ouais, ou t'imagines le truc du style, oui, il est monstrueux, mais en fait, ils se rendent pas compte que c'est deux cubes qui sont l'un avec l'autre. En tout cas, un grand, grand merci, donc, Fabrice. La semaine prochaine, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro. Alors, on ne sait pas encore lequel, bien entendu.
Ce sera une surprise.
On va décider. Mais une chose est sûre, je les vois là maintenant. Elles sont parties. Les deux succubes sont parties. En revanche, elles ont emporté avec elles un bon paquet de la salle. Je pense que Triscard va encore râler. Mais bon, je comprends quand même qu'il soit pas content. C'est pas terrible pour la clientèle.
Est-ce que tu veux l'appel de la nature ?
Exactement. En tout cas... Ne l'oubliez pas, tout cela n'est que du jeu. Et que vos parties soient belles.
À la prochaine fois.